Révolution plus médiatisée que celle du porno queer féministe, celle de Lady Gaga, dont Mélissa, fan de la première heure et qui connaît sur le bout des doigts jusqu'au dernier tube de la reine du beefsteak, et qui ne manque pas une occasion de parader dans les couloirs de l'ENS vêtue d'une très saillante tunique d'escalope surgelée, estampillée Sodexo. Mélissa, qui pour vous, aujourd'hui et à nouveau, n'hésite pas à rompre la chaîne du froid et à décongeler les morceaux choisis de la culture pop. Melly Monster, Melly Parker, I call your name. Don't go my name.
Je ne vous apprends rien. La question du corps est une question primordiale dans ce que certains jugent pertinent d'appeler les cultures populaires. Et plus précisément dans le monde de la pop musique. Là, la musique seule ne suffit pas. Encore faut-il qu'elle soit prise en charge par l'image d'un corps donné. De fait, dès que le corps se modifie ou affirme, volontairement ou au détour d'un imprévu, sa corporéité, il perd son statut de pure image et c'est là que le public et les tabloïds s'affolent. On retrouvait de cette démarche dans l'apparition de Lady Gaga, vêtue d'une robe de viande aux MTV Awards de 2010, qui a entraîné son lot de clameurs. Certes, si nous observons précisément la chose, il semble qu'il ne s'agisse là que de modification de l'apparence et non pas de modification du corps à proprement parler. Mais tout de même, s'habiller de viande dit quelque chose du corps en dessous, de son éphémère et de ce qu'il a, à plus ou moins court terme, de putrescible. Cependant, pour entrer dans la robe, le corps est toujours identique au standard. Fermeté, sveltesse, taille marquée et petit sein. Rien de nouveau sous le soleil des normes esthétiques du temps. Le corps est toujours sain, sollicité, désirable. Et il faut par là entendre non seulement le désir sexuel, mais aussi le désir d'être le corps en question.
Une robe qui, rappelons-le, ne sort pas de n'importe quel placard, puisqu'il s'agit d'une contrefaçon d'une œuvre d'art contemporain de l'artiste Jana Sterbak, intitulée Vanitas, robe de chair pour albinos anorexique, présentée pour la première fois en 1987, alors que la petite Gaga célébrait à peine son premier anniversaire. Œuvre tragicomique et subversive, rappelant la maigreur de la femme involontaire, et qui se pose bel et bien comme une dénonciation du contrôle des médias sur les corps, mais se lit également comme le symptôme de la standardisation d'un corps malsain.
Subversion et standardisation, c'est sans doute là qu'est le grand paradoxe de Lady Gaga, qui alterne les coups d'éclat médiatiques et les revendications esthétiques. Dès le début de sa carrière, elle a entraîné avec elle l'imagerie du freak show, alors même qu'elle n'était qu'une représentante de plus des prescriptions corporelles actuelles. Et dans cette loi ordinaire du corps, la règle première est de n'offrir qu'une image qui ira s'imprimer dans le regard de l'autre, bonne à tirer. C'est là qu'intervient un événement assez récent que je vais essayer de vous narrer simplement. En un mot, Lady Gaga s'est saisie de la possibilité d'un discours en se saisissant de la question du corps et de sa place sous le regard. Vous objecterez que c'est là un peu plus d'un mot. Certes, mais laissez-moi vous expliquer plus en détail ce dont je parle. Lors d'un concert en septembre 2012, la jeune femme apparaît, chargée de 11 kilos supplémentaires. 11 kilos qu'elle a gagnés en très peu de temps et qui laissent son public bouche bée. Les médias, eux, en profitent pour s'agiter la langue. Grossesse, laisser aller, régime inadapté, abus d'alcool pendant les tournées, les hypothèses fleurissent. Les photographies peu flatteuses et les moqueries ne tardent pas à faire de même. L'histoire pourrait s'arrêter là, et ma chronique aussi. Mais ce qui aurait pu être simplement trivial devient intéressant quand Lady Gaga publie sur sa plateforme destinée à ses fans, affectueusement surnommée Little Monsters, des photos de sa personne en sous-vêtements, sans maquillage, dans un décor digne de n'importe quelle vidéo amateur YouTube. Ces photos sont légendées comme suit. « Bulimia and anorexia since I was 15, but today I joined the body revolution to inspire bravery and breed some motherfucking compassion. » Pierre, je te laisse le loisir de traduire.
Boulimie, anorexie depuis mes 15 ans, mais aujourd'hui je m'engage dans la révolution du corps pour inspirer le courage et susciter un peu de putain de compassion. Mais alors Mélissa, en quoi cette intervention est-elle intéressante? Est-ce que ce n'est pas seulement un plan pub supplémentaire?
Oui, sans doute. Mais au-delà de cela, elle permet à la fois de résoudre le paradoxe de l'appropriation de l'imagerie freak et pose aussi d'autres questions intéressantes. Sur le plan de l'imagerie, on peut comprendre que se sentir « freak » n'est pas uniquement le fait de manifestation physique, mais surtout une façon de penser son corps, de le distinguer mentalement du canon. En prenant la parole sur le sujet de l'anorexie et de la boulimie, Lady Gaga opère une réelle dissociation entre l'image du corps et sa réalité organique. Son image est canonique, mais il reste l'objet de perturbations, de débordements, de privations, de sollicitations, de symptômes divers. Ce dérèglement, en anglais on dirait d'ailleurs « eating disorder », est en soi une forme, effectivement, de désordre, non seulement physique ou psychologique, mais aussi, dans une certaine mesure, sociale ou esthétique. Par ailleurs, si l'initiative de Gaga elle-même prend tout de même des airs de démenti, ce sont les conséquences sur ses fans qui donnent tout leur sens à ce qui est devenu une sorte de mouvement sur Internet, la « body revolution ». Je parle de démenti, Car il faut noter que sur ces photos, mises en scène par l'artiste elle-même, et quand bien même elle ne serait pas maquillée ni apprêtée, Gaga apparaît bien plus à son avantage que sur les photos volées du concert à l'origine de cet événement. On retrouve là le même type de réaction que celle de Jennifer Lawrence, la jeune actrice incarnant Katniss dans Hunger Games ou Mystique dans X-Men Le Commencement, criant avec humour au photoshopage de son postérieur quand une photo d'elle avec de la cellulite était apparue dans la presse. « That's not my butt !» clamait-elle alors. Lady Gaga n'est pas loin d'une démarche semblable. Comme le trait d'humour de Jennifer Lawrence, le leitmotiv accompagnant ces photos de Lady Gaga vient désamorcer la médiatisation initiale de clichés où le corps ne correspond pas à la norme du visible, du publiable. Et c'est ce leitmotiv qui, repris par les monsieur et madame tout le monde qui gravitent sur le site littlemonsters.com, donne lieu à un événement étonnant. En effet, suivant l'exemple de Gaga, qui atteint par là même le statut d'inspirational people, de modèle à suivre, ses fans en viennent à poster des photos de leur corps, souvent accompagnées de commentaires. J'ai donc donné de ma personne pour cette chronique et me suis inscrite sur le site en question. Et j'ai pu y voir trois types de photographies. Les premières sont extrêmement classiques. Des hommes et des femmes, souvent jeunes, se prennent en photo, exhibant abdos et duck face, tout en commentant « Oh là là, ce que je suis moche, mais grâce à Lady Gaga, je me montre, soyez gentils !» On est dans le schéma classique de l'attention whore. Pierre ne te sent pas obligé de traduire. Qui exhibe son corps normé, en se plaignant, pour glaner les compliments en commentaire. Ça n'est étonnamment pas le plus gros des photographies mises en ligne, contrairement aux proportions d'images du genre sur un réseau social comme Facebook. Le deuxième type de photo est celui de corps non plus normés, mais normaux. Le terme est bien sûr tout à fait incorrect, mais disons, de corps banal, quotidien, ni incroyablement musclé ou filiforme. Ces clichés sont souvent accompagnés de commentaires qui expliquent comment ces personnes sont passées d'un corps hors gabarit à un corps moyen, donc invisible. Ne reste de la transformation que des traces, peau un peu flasque, vergétures, vêtements encore un peu trop grands. On lit la fierté d'avoir réussi à assumer un corps donné en le transformant, en l'assujettissant, en le circonscrivant. C'est là le retour du paradoxe. Pour qu'il soit visible, il faut que le corps soit muselé, contenu dans des bornes précises. Le troisième genre de photographie, lui, dépasse ses tentatives de contrôle. Il s'agit de corps mutilés, recousus, déformés, amputés, au sens propre. On y trouve l'image d'une jolie jeune femme en sous-vêtements, avec une jambe artificielle, celle de personnes dont les cicatrices traversent le dos, le torse, le visage. Des hommes et des femmes dont le corps est tordu, mal proportionné, à qui il manque des dents ou des membres. Des corps a priori sans particularité aussi, dont la légende indique qu'ils combattent un cancer, un lupus, la maladie de Crohn. Ces photographies viennent dépasser l'opposition entre ce qui est visible et ce qui est la réalité d'un corps. Et, loin du sens de la formule glamour, elles viennent nous rappeler que nous sommes tous des monstres. Nous mettons en scène ce qui de nous, dans la vie, est visible. Jusqu'à ce que nos corps nous rattrapent et nous imposent leur incoercibilité, leur irrésistible réticence à quelque norme esthétique ou sociale que ce soit. Sous l'œil public ou médiatique comme dans l'intimité de la chambre, il nous faut vivre avec eux, avec leur matière, avec ses inconséquences de la chair. Et ça, c'est le terrible terrain de tout art. Rama, Rama.